L'immeuble témoin. Luanda, capitale de l'Angola, en 2055. Après plusieurs semaines d'attente, le jour J est enfin arrivé. Depuis que sa professeure d'histoire, Donna Sterl, a parlé de l'immeuble témoin, Jessica n'a cessé d'y penser et a convaincu sa mère de l'y emmener. Dans la voiture, elle trépigne d'impatience à mesure qu'elle se rapproche de leur destination. D'après Donna Sterl, l'immeuble a été construit il y a 100 ans. À une époque où l'Angola était considérée une province du Portugal. Avant, il y avait une centaine d'immeubles semblables rien qu'à Luanda, mais tous ont disparu. L'immeuble témoin est le dernier survivant de son espèce. Cette histoire avait tout pour captiver la jeune fille, et plusieurs questions la taraudaient. Par qui, pourquoi et pour qui l'immeuble avait été construit? Était-il si différent des autres bâtiments de la ville? Qu'était-il arrivé aux autres édifices pour qu'ils disparaissent du paysage de Luanda? La voix de sa mère, lui annonçant qu'elle était arrivée, tira Jessica de ses pensées. Elle se précipita hors de la voiture et leva la tête. L'immeuble était imposant, mais bien moins haut que ceux qui l'entouraient. Il était à la fois massif et élégant, tout en béton, peint en blanc. Il ne ressemblait ni aux tours vitrées du centre-ville de Luanda, ni aux immeubles aux façades lisses, peintes en couleurs vives et percées de petites fenêtres que l'on trouvait dans les nouvelles centralités construites autour de la ville. Sa mère et elle se joignirent à un petit groupe qui attendait au pied de l'édifice. Quelques minutes plus tard, une dame souriante s'approcha d'eux et se présenta. Donna Sonia était une habitante de l'immeuble. Elle y avait vécu toute sa vie et faisait partie des 6 résidents chargés d'organiser les visites guidées. Elle commença sa présentation. L'immeuble a été inauguré en 1955 et fête cette année son centenaire. Il a été conçu par l'architecte portugais Luís Fernando Figueiredo, qui, après avoir été formé à l'Académie de Porto, s'est rendu en France pour étudier l'urbanisme. Elle continua son exposé en évoquant Le Corbusier, le modernisme et l'utilisation de ce style architectural dans les colonies portugaises à partir de 1945. Ensuite, la guide leur fit faire le tour du bâtiment tout en décrivant l'édifice. Elle parla des pilotis, des coursives, des brise-soleil, des loggias, de la toiture terrasse accessible et des appartements en duplex. Alors qu'ils avaient tous les yeux levés pour admirer les façades, la guide leur fit remarquer de petits éclats dans le béton. Il s'agissait d'un pacte de Bâle datant de 1974. Le pays était alors en pleine guerre d'indépendance et comme la plupart des Portugais qui vivaient en Angola à cette période, les résidents de l'immeuble avaient quitté le pays hâtivement. Donna Sonia entraîna ensuite le groupe sous l'édifice. De petites constructions étaient venues se glisser entre les pilotis. L'une d'entre elles était une pièce occupée par des présentoirs sur lesquels étaient disposés des objets disparates. Un service de thé, une valise en cuir, des photos de famille, un vieux fauteuil ou encore une horloge. Ces objets, qui appartenaient aux colons, avaient été découverts dans une remise. Mais la plupart de leurs effets personnels abandonnés avaient été conservés ou revendus par les familles qui s'étaient installées dans l'édifice après l'indépendance. Avec l'arrivée des familles angolaises, de nouveaux usages se sont progressivement introduits dans l'immeuble. Les deux autres annexes, construites au rez-de-chaussée, dataient du début des années 2000 et abritaient respectivement une épicerie et un atelier de couture. Le groupe explora ensuite les étages. Après avoir visité un des rares appartements ayant conservé sa disposition initiale, ils en virent d'autres où des cloisons avaient été abattues ou érigées pour agrandir des espaces ou en créer de nouveaux. Parfois, les pièces avaient changé d'usage et quelques logements s'étaient étendus en grignotant des portions de coursives. Deux appartements accueillaient à présent des bureaux et un centre d'esthétique. La visite se termina sur le toit terrasse, en partie occupé par une salle commune et une buanderie aménagée il y a une trentaine d'années à l'initiative des habitants. De là-haut, on pouvait apercevoir entre deux tours Luanda qui s'étendait au loin. La guide les invita à imaginer qu'avant, le centre-ville se composait essentiellement d'immeubles semblables à celui-ci. Un des visiteurs posa alors la question que Jessica avait également au bout des lèvres. Pourquoi n'en restait-il plus qu'un ? L'effet du temps, mais surtout le manque d'entretien, ont causé la perte des immeubles coloniaux de Luanda. D'abord en raison de la guerre civile, puis par manque de volonté de l'État, la plupart de ces édifices n'ont plus bénéficié de travaux après 1975. Un premier immeuble s'est effondré en 2008, entraînant une vague de démolition. Officiellement, ces bâtiments étaient irrécupérables. En réalité, les démolir permettait de libérer des terrains en centre-ville. En 2023, un deuxième immeuble s'est effondré et ceux qui l'entouraient suivirent. Les secousses occasionnées par la chute d'un édifice entraînaient celles de trois autres. L'État tenta d'intervenir, mais il avait 15 ans de retard. En 2 ans, le centre-ville de Luanda s'est écroulé comme un château de cartes. Chaque jour, de nouveaux immeubles devaient être évacués et les autres furent démolis par mesure de précaution. Ceux qui vivaient dans ces édifices furent envoyés dans les nouvelles centralités à la périphérie de la ville. Puis un jour, il n'en resta qu'un. Elle leur expliqua que l'immeuble avait résisté grâce au mécanisme d'autogestion mis en place par ses habitants. Les charges de copropriété mensuelles et les revenus générés par la mise en location de certains locaux leur avaient permis de veiller à l'entretien de l'édifice. À présent, les recettes réalisées grâce aux visites guidées assuraient l'avenir du dernier exemplaire d'architecture résidentielle, coloniale, moderne et tropicale de Luanda. La guide acheva sa présentation sur ces mots. Alors que Jessica contemplait une dernière fois l'immeuble, une pensée lui traversa l'esprit. Cet édifice avait déjà vécu 3 vies. La première s'est éteinte dans le même souffle que la colonisation. La deuxième avait débuté au lendemain de l'indépendance avec l'arrivée de nouveaux usagers et usages. Pour sa 3e vie, il était devenu un objet de mémoire, l'immeuble témoin, dernier vestige du modernisme tropical luandais. L'adolescente se demanda combien de vies ce bâtiment qui avait toujours su se réinventer vivrait-il encore.